Il est 11h09, on va aller rejoindre Patrice Saint-Pierre. Bonjour Patrice.
Bonjour Annick.
Patrice, on a plein de bons sujets à aborder ce matin dans l'actualité. D'abord, une annonce positive pour la main-d'œuvre d'expérience en lien avec un projet du Conseil du patronat du Québec.
Oui, projet. Lequel projet? On a été appelé à collaborer de façon étroite au niveau de la FADOC avec le Conseil du patronat au Québec. Pour voir à concevoir une boîte à outils pour l'attraction et la rétention des travailleurs et travailleuses, particulièrement chez les 60 à 69 ans. On sait qu'il y a une orientation au niveau du gouvernement pour essayer de maintenir en emploi le plus longtemps possible des gens ou encore de les réintégrer sur le marché du travail. Donc, essentiellement, cette boîte à outils-là qui va être conçue va permettre aux employeurs de développer différentes mesures pour assurer une rétention de leur main-d'œuvre à plus long terme, mais également d'être plus attractif pour ces derniers, pour amener des gens à réintégrer le marché de l'emploi, parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est d'importance au Québec aujourd'hui. Donc, ces outils-là, je pense, cette boîte à outils-là va être fort pertinente. Le gouvernement, hier, a salué le travail qui est fait actuellement par la FADOC et le Conseil du patronat. Je rappelle que c'est une initiative là, du Conseil du patronat. Mais je tiens à rappeler également qu'il y a une dizaine d'années, on avait sorti ici dans la région, comme quoi on a toujours un petit peu précurseur, un outil qui s'appelait « Guide de l'employeur de choix », qui était déjà, dans le fond, pour nous, un instrument qui visait à la rétention de la main-d'œuvre. Donc, naturellement, ce guide-là qu'on a développé, les informations qu'on y retrouve vont être partagées avec le Conseil du patronat, éventuellement dans la nouvelle boîte à outils. Donc, vraiment intéressant ce qui est annoncé. Mais il faut aussi rappeler qu'en parallèle, il y a un bout de travail qui est à faire de la part du gouvernement. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un sondage qui a été mis également par le Conseil du patronat qui révèle que 50% des répondants, donc qui avancent en âge, signifie que les mesures fiscales qui sont trop peu nombreuses présentement, ben c'est ça qui ferait en sorte qu'ils retourneraient sur le marché de l'emploi. Donc, c'est une personne sur deux qui se laisserait influencer, non pas par les aménagements que l'employeur va faire, mais beaucoup plus par des allègements fiscaux qui vont faire en sorte qu'il y aura une bonification réelle du revenu des aînés. Donc, tout ça est à suivre, mais c'est des nouvelles qui vont dans le bon sens au niveau du Conseil du patronat.
Puis quand on parle d'accompagner les entreprises, là, est-ce que tu considères que l'employeur ne sait pas quoi offrir pour que ce soit attractif les offres d'emploi qu'ils font, parce que souvent, ils offrent exactement la même chose que le jeune de 17 ans ou la personne qui est caissière à 67 ans.
Bien, j'ai un bel exemple à te partager, Annick, parce que on a travaillé là, beaucoup, nous, ici, là, à la suite de la fermeture des usines, il y a une quinzaine d'années, des scieries qu'on avait particulièrement avec la forêt. On a travaillé beaucoup dans le domaine de l'employabilité. Puis, à un moment donné, il y a un employeur qui nous avait appelé pour illustrer ce que tu parles. Il nous avait dit, bien, écoutez, moi, je me cherche un commis pour travailler à mon épicerie. Je suis pas capable de me trouver personne. Ça fait presque 2 mois, puis je suis pas capable de me trouver personne. C'est qu'on lui avait dit, on lui avait demandé de nous partager son offre d'emploi. Et lui, il demandait un 40 heures semaine. C'est que ce qu'on lui a suggéré, c'est de dire, écoutez, segmentez votre offre. Faites 2 offres, 2 postes de commis à 20 heures semaine. Puis normalement, vous devriez plus cibler à ce moment-là les retraités qui, eux, veulent souvent chercher un travail à 2-3 jours semaine et non pas avoir une semaine à temps complet. Ça lui a pris 1 semaine et il a trouvé ces 2 personnes. Donc, tout ça pour mentionner que des fois, c'est des choses qui nous apparaissent tout à fait simples. Il y a d'autres incitatifs dans les aménagements. Il faut aussi penser qu'au niveau des conditions physiques, pour certaines personnes, il y a des aménagements particuliers à faire. Je donne un exemple dans une épicerie, on parle d'épicerie. Bien, peut-être une personne qui serait plus avancée en âge aurait peut-être besoin d'un tabouret ou de quelque chose pour pouvoir s'asseoir de temps à autre, on le voit dans certains autres pays. Mm-hmm. Donc, il y a tous ces aménagements-là qui sont possibles pour permettre à des gens qui ont des particularités de pouvoir demeurer en emploi parce qu'on aura pensé à leur confort et à ce moment-là, bien, ça facilite bien entendu la rétention de la main-d'œuvre.
Comme quoi, c'est terriblement important de se parler.
Ben oui, puis surtout de prendre conscience des besoins et surtout de s'adapter. Parce que, je veux dire, on a fait les infrastructures et les offres d'emploi il y a quelques années en fonction d'une pyramide des âges qui faisait qu'on avait une grande quantité d'employés qui étaient dans ces clientèles-là. Ben aujourd'hui, on a une configuration qui est différente, alors à nous de s'adapter.
Le projet de loi 31 On dit que rien pour régler les problèmes des locataires aînés. Il y en a qui rapportent des choses avantageuses par rapport à ça. Puis il y a d'autres points vraiment négatifs, là.
Oui, bien, il y a beaucoup de déceptions par rapport à ça parce qu'il faut rappeler qu'on était en commission parlementaire en septembre dernier avec une liste d'épiceries qui comportait là, 5 points principaux qu'on avait partagés à la ministre pour faire en sorte là, de faire avancer ce projet de loi-là. Et là, ce qui semble accoucher nous déçoit un peu, malheureusement, parce que une des clauses importantes qu'on voulait voir intégrées dans le projet de loi était de pouvoir avoir une modification de l'article 1951.1 du Code civil du Québec, qu'on connaît aussi, bien en tout cas, c'est peut-être certain, on le connaît sous le nom de la loi Françoise David. Si je te résume ça, c'est qu'en 2016, le gouvernement du Québec, à la suite d'une motion qu'avait présentée Françoise David, avait adopté un règlement qui faisait en sorte que lorsqu'on voulait évincer une personne de 70 ans et plus à faible revenu de son logement, quand cette personne-là a plus de 10 ans à l'intérieur du même logement, bien, le propriétaire ne peut pas l'invincer pour n'importe quelle raison au monde. Donc, à ce moment-là, cette clause-là a été mise en place, ce qui fait que ça l'a permis d'avoir des aménagements, notamment avec le tribunal administratif sur le logement, de pouvoir faire des bons suivis, puis de faire en sorte que des gens ne soient pas évincés pour n'importe quelle raison parce que le propriétaire ne veut plus avoir cette personne-là, à titre d'exemple. Donc, ce qui était demandé pour nous dans le projet de loi 31, on voulait demander que cette clause-là puisse passer d'abaisser l'âge de 70 ans à 65 ans, ce qui n'a pas été retenu actuellement. Donc, on prévoit malheureusement que ça va pénaliser beaucoup de personnes qui sont à la recherche ou qui sont encore présentement à l'intérieur d'un logement. Donc, pour nous, il y a une perte là, qui est décevante. On aurait vraiment aimé être entendu là-dessus. Par contre, en parallèle, donner un élément positif de ce projet de loi-là, parce que même si je parle des 5 revendications pour lesquelles là, je ne déclinerai pas, mais qu'on n'a pas eu, je dirais, de suivi, il y a quand même un élément qui est positif, c'est celui-là du règlement qui va permettre, là, devant le tribunal administratif sur le logement, qu'une personne soit représentée par elle-même ou par un tiers. Donc, à ce moment-là, tu pourrais dire, bon, ben moi, ça va être mon garçon qui va aller devant le tribunal administratif sur le logement pour plaider ma cause, à titre d'exemple. Ou encore, on pense à des organismes régionaux comme le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, pourraient agir au nom d'un locataire devant le tribunal administratif sur le logement, admettons qu'il y aurait un mandat de ces derniers de le faire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça enlève le stress pour une personne âgée, des fois, de pouvoir se représenter elle-même. Admettons quelqu'un qui a une contestation de bail à faire à 90 ans, je donne un exemple.
Ah, oh, c'est pas évident, là. Avec toutes les technologies aujourd'hui, se déplacer, ça n'a pas de bon sens.
Bien, il y a ça, puis tout le stress que ça impose à la personne. Donc, parce que là, il y a toujours une charge émotive. On est devant le tribunal administratif sur le logement. On peut avoir une mesure d'éviction de notre logement. Donc, est-ce que nous, on est émotivement, on est dans la situation? Donc, le fait d'avoir un tiers qui peut nous représenter, avoir les bons mots, les bons éléments, qui connaît la mécanique, bien, ça peut juste donner des éléments favorables à la personne qui va aider dans le lorsque sa cause va être entendue. Donc, pour nous, ça, c'est un élément qui est vraiment très, très intéressant. Puis on demande toujours, bien entendu, encore une fois, là, l'abolition de la clause F là, pour les RPA. Bref, beaucoup de choses pour lesquelles on est encore en travail. On va poursuivre le travail. Puis à un moment donné, bien, à force, 100 fois sur le métier, hein, à force de parler, on risque d'être entendu.
On espère. Ceci dit, on parle de plein de dossiers d'actualité, mais on peut parler voyage aussi.
Bien, écoute, et tu sais que la belle saison va arriver très rapidement cette année. Et nous, on vient de faire, déjà depuis l'automne, on est en préparation de notre prochaine campagne de voyage vélo FADOC qui a été lancée il y a déjà quelques temps. C'est assez impressionnant de voir encore l'engouement que les gens portent. Faut bien entendu parler de l'avènement du vélo électrique au Québec, du vélo à assistance électrique qui permet à beaucoup de gens de poursuivre leur pratique de vélo ou encore de remonter en selle après plusieurs années. Donc, je rappelle aux gens qu'on a une programmation de voyage vélo qui a été lancée, qui est très, très important. Super Tour des Tulipes en Hollande qui était complet. On a eu une annulation de 2 personnes, malheureusement, une personne qui doit avoir une intervention. Donc, il y a 2 places qui se sont libérées pour fin avril. On sait la Hollande.
Pour la Hollande, hein?
Les tulipes à la fin avril, c'est assez impressionnant, les couleurs. fantastique. Donc, c'est un voyage qu'on présente à chaque année, qui est toujours complet. Mais je vous dis, s'il y a des jeunes intéressés, il y a présentement 2 places. Sandbanks en Ontario, qui cette année sera présenté en juin, du 16 au 20 juin. Les îles du Saint-Laurent, donc découverte de l'île d'Orléans. On va également aller à l'île aux Coudes et l'île de la Quarantaine, avec également un circuit urbain dans la ville de Québec. Donc ça, c'est du 9 au 13 juillet. Le tour du lac Saint-Jean, en fait, on vient même d'en ajouter hier un second, puisqu'on a déjà une édition au mois d'août qui est complète. Il reste peut-être une place, mais on a beaucoup d'autres demandes. Donc, on va ajouter un départ au début juillet, donc tour du lac Saint-Jean. On a également le vélo-bateau en Provence et Camargue du 11 au 21 septembre. Les Châteaux de la Loire, qui n'est pas un vélo-bateau, c'est un circuit terrestre, celui-là. Magnifique voyage que j'ai eu l'occasion de guider il y a 10 ans dans la région de la Loire, avec notamment le Château de Chambord et ses 422 pièces. Et finalement, le Danube à vélo du 27 septembre au 8 octobre. Même voyage qu'on a fait également l'automne dernier, où on avait l'occasion de se parler en direct de la Slovaquie.
Absolument, oui, c'est le fun.
Donc, une belle programmation de voyage vélo. C'est du voyage, hein? On se rappelle du voyage épicurien, du voyage de découverte. C'est pas du voyage de vélo d'entraînement. On est vraiment dans du vélo contemplatif, exploratoire. On aime voir les pays, on aime déguster les produits du coin. Donc, une très, très belle programmation. J'invite les gens à aller constater toute la programmation sur notre site fadoc.ca. Ou encore à partir de notre page Facebook de FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Autre sujet intéressant, parce que souvent on prend des assurances quand on est jeune et on ne sait plus trop ce qu'on a écrit là-dedans, c'est en lien avec notre assurance-vie. Qui héritera de votre assurance-vie? Vous posez plein de questions intéressantes.
Oui, puis écoute, c'est un petit rappel des fois, là, de choses toutes simples, mais des fois, lorsque les éléments ne sont pas précisés, mais ça fait en sorte des fois que les successions, ça peut être compliqué. Et Dieu sait que j'ai vu ici malheureusement des chicanes dans des familles, des choses qui étaient malheureusement pas claires. Donc, ce qui est important, bien entendu, les gens vont tout dire, ben écoute, c'est facile, c'est mon bénéficiaire qui va bénéficier de l'assurance. Mon ou mes bénéficiaires, dépendamment de quelle façon on a désigné ça au niveau de notre testament. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments qui sont importants. Puis là, je n'irai pas dans toutes les choses parce qu'on vous a partagé l'information sur notre page Facebook, encore une fois, et notre site FADOC. Mais je vais donner un exemple. Si on a plus d'une personne à qui on va faire bénéficier, exemple, d'une assurance-vie, si on n'établit pas, exemple, au départ, les pourcentages de dire, bon, ben moi, à tel enfant, je lui donne 75 % puis à l'autre, je lui donne 25 % si c'est votre volonté, si c'est pas précisé, d'emblée, à ce moment-là, à votre décès, les héritiers vont avoir exactement les mêmes parts. Donc, à ce moment-là, si c'est pas précisé, donc c'est important de le faire. Donc, de prévoir aussi les plans B. Si les personnes que vous aviez désignées, exemple, décèdent ou il arriverait quoi que ce soit, bien, qu'il y a une seconde personne, ce qu'on appelle un bénéficiaire subrogé ou subsidiaire. Donc, différents éléments comme ça qui sont précisés dans l'article que je vous ai partagé, qui est vraiment de l'information. Puis, une chose aussi, on peut même faire une désignation à quelqu'un qui n'est même pas encore, qui n'a pas 18 ans ou encore qui n'est même pas encore en vie. Donc, vous avez un petit-fils, une petite-fille.
Les petits-enfants à naître.
Exactement, les petits-enfants à naître. Donc, cette désignation-là peut se faire également. C'est une page qui est très facile à lire, qui est faite en collaboration avec Beneva, qui est un partenaire en assurance de la FADOC. Donc, je vous invite à aller lire ça. C'est vraiment intéressant. Ça nous donne une petite information. Puis, si vous le saviez déjà, bien, il y a peut-être d'autres éléments qui vont vous conforter dans les décisions que vous avez prises. Donc, disponible sur fadoc.ca ou encore notre page Facebook.
Merci beaucoup, Patrice. On se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bye-bye.
Au revoir. Il est 11h23. On y va en musique.